Shalom uvracha erev tov b'shem Hashem na'ase v'natzliyar shenizkeh lagdil Torah l'adira. On est ce soir le mardi 27 du mois de juillet et déjà le Yutet du mois de Av. Une idée qu'on prendra de la paracha de Ekev be'ezrat Hashem. Shiur acheté par Binyamin Kalfa pour une grande refouach kemach, la mamira atzlacha, beaucoup de mazal, beaucoup de joie et de bonheur. Sa chère épouse Sarah Bat Daniela, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, que le mérite de cette étude Yavila Bezrat Hashem, Osher Deshanim Veranim Iyur, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala Moratimi, Sarah Tale Batifrat Myriam, Via Bat Esther, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka, Bechol Chol Israël, Ulef Alfa Avdalim, Ilou Nishmat, Hashem Atov, Ruach Hashem Tanachenu, Georges Ben Yom Simcha. Tov. Rashi HaKadosh nous parle dans cette paracha d'une réflexion qu'on a déjà étudiée dans d'autres shiurim à propos des trois premiers mots de la paracha Ve'aya Ekev Tishmeun, et il fut ou il sera, comme tu le voudras, Ekev, en fin de compte, Tishmeun, vous l'entendrez. Donc on peut le traduire de plusieurs façons. L'une des traductions la plus connue, c'est en fin de compte, vous ferez ce que je vous dis. Ve'aya Ekev Tishmeun, en fin de compte, vous allez faire ce que je vais vous demander. Mais si je reste dans le pshat, le mot ve'aya est relié à la joie, comme on l'expliquait dans Megillah. En ve'aya est la leshon simcha. Quand on dit le mot ve'aya et il sera, c'est un signe de joie. Ekev, en hébreu, c'est le talon. Tishme'un, vous l'entendrez. Rashi, comme vous le savez, nous dit, ce sont les mitzvot qui sont reliés à notre talon, c'est-à-dire que l'on place au plus bas de la hiérarchie des mitzvot, pensant que ce sont des mitzvot pas très importantes. Ou alors peut-être des mitzvot qui sont tellement pratiquées de façon naturelle et répétitive qu'on ne fait pas attention à ces mitzvot-là. C'est bien ? Dans le livre, par Peraot la Torah, Chazal explique là-bas, Béhémet, qu'il y a une mitzvah, dans le Tachlès des choses, qui est d'une dimension tellement importante dans le ciel et qui pour nous est inexistante. Quelle serait la mitzvah qui serait reliée à Ya Ekev Tishmeru? Quel pas que l'on pourrait faire serait tellement entendu dans le ciel et qui représenterait une joie intense, Ya, qui veut dire la joie, le fait de marcher en Israël. Quand tu marches en Israël, quand tu poses ton talon sur la terre d'Israël, tu marches, tu vas au travail, tu vas à la maison, tu vas au mikvé, tu vas à la synagogue. Ya Ekev Tishmeru, chaque fois que ton talon se pose sur la terre d'Israël, tu crées un ange. Comme ça, c'est marqué dans le livre par Peraot la Torah. Ve'aya Ekev Tishmeun, viendra un moment dans la vie, quand tu partiras de ce monde, tu vas entendre parler de quoi tu te rends compte ce juif-là, il a marché sur la terre d'Israël. Les gens, ils rêveraient de marcher sur la Lune, sur la planète Mars ou sur Vénus. Nous, notre but, c'est de marcher que dans une seule terre, qui est pour nous une mitzvah. Ve'aya Ekev, quand tu poseras ton Ekev Tishmeun. La Gemara dans Ketubot Kuf Yud Alef le dit explicitement. Si tu veux savoir à quel point c'est grand de marcher en Israël, si tu veux relater un petit peu de quoi est-ce que l'on parle, pour avoir le monde futur, il faut faire des très grandes mitzvot. Et pourtant, la Gemara nous dit Kol ha'olech arba amot be'eretz Israël muftach lo shehu ben ha'olam haba. Tout celui qui fait quatre pas. Donc, celui qui pose quatre fois son talon en Eretz Israël, tu peux être certain qu'il a le monde futur. Waouh! Donc, on s'étonnera maintenant assez pas pour comprendre que celui qui vient d'Israël, la vie, elle est dure. Parce que comme cette terre te promet le Olam Haba, automatiquement, il va falloir que chaque fois que tu fais une bêtise, tu le payes cher. Donc, pourquoi? Pour te rendre quitte. Et que quand tu viendras à Bezrat Hashem de l'autre côté, Bezrat Hashem, tu pourras rejoindre ton Olam Haba. Et si tu as encore des choses à régler parce que tu as été quelqu'un qui a fait du mal sur cette terre, contre la Torah et autres, alors tu vas payer par le kafakela, par toute cette entre le ciel et la terre. Mais sauf kol sauf, en fin de compte, Gaïa, Ekev Tishmeun, comme le dit la Gemara, Kufiud Amud Bet, donc Ktubot, en bas, que la terre d'Eretz Israël est capable de faire la kapara des fautes de l'homme Beshogeg. C'est-à-dire que même Kol kavur be'eretz Israël keil ou kavur tachat hamizbe'ar, tout celui qui est enterré en Israël, la terre d'Eretz Israël, quand elle est sur lui, est capable d'être comme un mizbe'ar qui fait la kapara. Elle lui répare ses fautes. comme une maman qui prend son fils, qui le console de ses larmes parce qu'il a mal. D'où l'importance de Béhémet comprendre, même quand on vient malheureusement en tant que touriste, parce qu'on n'a pas encore le mérite de faire la Aliyah, quand tu poses tes pieds en Eretz Israël, Dash, Bakavav, pour nous, je marche, tu vois pas, je marche en Israël, je marche à Paris, pour moi c'est pareil. Hein? Il dit non, marcher à Paris, il n'y a aucune mitzvah. Sauf si, quand tu marches à Paris, à New York, à Hong Kong ou ailleurs, c'est pour aller faire une mitzvah. Par exemple, les Beit HaKnesset. Chaque pas que tu fais pour aller à une synagogue, si c'est pour une mitzvah, tu fais un pas. Mais ce pas-là, il n'est pas aussi important que marcher en Israël. Stam marcher en Israël. Qu'est-ce que tu fais? Je marche. Stam. Stam. Je marche pas pour faire une avéra. Oy vavoy d'utiliser les pas et la terre dresse pour une avéra. Ça, par contre, tu vas payer très cher. Le pas, il va se retourner contre toi. Et là, tu n'auras pas. Mais par contre, un jour, quelqu'un, je lui ai dit ça il n'y a pas tellement longtemps, il m'a dit Stam, quoi, tu fais rien, tu fais une mitzvah. Je dis pourquoi dans la soukha? Stam, tu es juste assis dans une soukha. Chaque seconde que tu respires là-bas, tu crées un ange. Il m'a dit ah oui, c'est vrai. Je dis bah, c'est pareil en Israël. Quand tu respires en Eretz Israël, quand tu marches sur la terre d'Eretz Israël, Stam, tu marches, fais un peu de marche. D'accord? Rabbi Nachman l'enseigne lui-même. Il dit que quand il arrivait en Israël pendant 6 mois, sa plus grande passion a été de marcher sur la terre d'Israël. Quand Avraham a vu où il est venu, pour rendre la terre d'Eretz Israël sainte, il a marché partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a parcouru Israël. Il y a une grande mitzvah de marcher en Israël. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on sort maintenant du Beit Midrash. D'accord? Bon, bah, on va pas faire attention, on va prendre une corkinette pour aller à la maison. Dommage, on va donner notre mitzvah à des roues. Prends la voiture. Chazal, par exemple, je donne un exemple concret. Si j'ai une synagogue qui est juste à côté de chez moi, et j'en ai une qu'au bout de la rue, je vais à laquelle? Celle qui est à côté de chez moi ou celle qu'au bout de la rue? Hein?
Celle qui est à côté de chez
moi. Non, réponse, celle qu'au bout de la rue.
Pour faire plus de pas.
Pour faire plus de pas, exactement. Ça veut dire que la Torah nous dit, allez à la synagogue le plus vite possible, c'est une grande mitzvah. Mais n'oublie pas que de faire des pas pour y aller. Vaya Ekev, ton talon, Tishmeroun, vous allez voir à la fin des temps. Combien Akadosh Baruch Hu va nous réserver de salaire incommensurable pour le nombre de pas qu'on aura fait sur la terre d'Israël. Kama Hashuv. Kal Vachomer de Kal Vachomer, si c'est pour des mitzvot. C'est-à-dire que quelqu'un qui part pour faire une mitzvah, Rabbi Moshe me disait toujours, quand tu vas chez un tzaddik, ne mets pas ta voiture devant le kever, sauf si la personne est handicapée ou qu'elle peut pas. Mais il y a une mitzvah qui va réveiller le tzaddik dans sa tombe, de gagner des pas pour y aller. Et c'est pour ça que c'est toujours bizarre, mais quand on va chez un tzaddik, il faut toujours se déplacer à pied. Il y a toujours une keta, un moment où on devra aller. La voiture, elle ne va pas juste devant le kever. Il y a toujours une mitzvah, et c'est pas comme on va faire. Nous, on se rend pas compte sur la voiture, on marche, bah oui, on marche, tu vas où? Je vais sur la tombe de Amram Ben Diwan, à la Vachalom, par exemple, c'était ça, à Saïloula. On va faire quelques pas pour y aller. Nous, quand on y va, on regarde pas un pas, deux pas, trois pas. Il dit, ah, c'est exactement de ça que nous parle la Torah. Deuxième explication que nous avons dans le livre Mariana Shal Torah. Il y a des choses, Béhémet, qui, à force d'être répétées, n'ont pas beaucoup d'estime à nos yeux. On le fait parce qu'on sait qu'il faut le faire. On sait que c'est important de le faire, mais on le fait mal. Pourquoi on le fait mal? Parce qu'on est tellement habitué à le faire qu'on ne met même pas du temps à se préparer à le dire et encore moins à le penser ou encore moins à le vivre. Ce sont les bénédictions quand on mange de la nourriture. Tout ce que l'on fait, c'est tellement répétitif, tellement banal à nos yeux. Mitzvot chez Adam, dash, ba'akavav. Rachin lui fait attention. Il y a des mitzvot que tu vois comme étant, on a l'habitude de les faire, on connaît. Il te dit, c'est dafka dans ces mitzvot-là que se trouve un salaire chez lo alecha la dat masrar mitzvah. Tu ne te rends même pas compte. Combien le Zohar HaKadosh rapporte de mérite, vante les extraordinaires lumière qu'un homme allume dans les mondes supérieurs quand il fait une bénédiction sur un fruit, sur un légume, sur un gâteau. Kama Hashuv, combien il est important de prendre son temps pour une bénédiction. Et nous, c'est pas ce qu'on fait. chérie, je te fais des pâtes ou tu veux ça? Ouais, donne-moi un peu de pâtes, donne-moi un peu de pâtes. Ouais, ouais. Mesonotes. Non, c'est ça. Il dit au contraire, le plat de pâtes, si tu voyais ce qu'il y a dedans, et c'est ce qu'on va étudier tout de suite, qu'est-ce qu'il y aurait dans des pâtes? Qu'est-ce qu'il y aurait dans du pain? Qu'est-ce qu'il y aurait dans une pomme de Boré Péré à Aetz? Vous allez entendre quelque chose d'extraordinaire et vraiment partager aussi ce chiour. Vemet, partagez-le parce qu'il est grandiose. Regardez ce que nous disent les Chachamim. Davar nifla v'nisgav. Quelque chose de merveilleux. Dans la paracha de Ekev, il y a marqué, dans le chapitre 8, verset 3, « Kilo al alechem levado ichia adam. » Ce n'est pas que sur le pain que vivra l'homme. « Ki, car, al kol motzapi, Hashem ichia adam. » Mais sur ce qu'il sortira de sa bouche, le nom de Dieu, vivra l'homme. En d'autres termes, ce n'est pas ce que tu consommes qui te fait vraiment vivre, mais le fait d'y déposer le nom de Dieu dessus. Et à quel moment, Bémet, on dépose le nom de Dieu sur la nourriture? Baruch Ata Hashem. Quand tu dis le nom de Dieu, à ce moment-là, tu vas dévoiler quelque chose dans la nourriture qui, sans cela, ne peut pas se dévoiler. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais une parenthèse avant de vous expliquer ce que nous dit le texte ici. Vous savez c'est quoi de manger de la viande cachère? Quand on tue un animal, comme par exemple un bœuf, l'animal, le bœuf, est composé de matière, matière importante. Mais en lui, comme dans tous les vivants, il a en général des veines dans lesquelles circule le sang qui va irriguer tous les membres de son corps pour qu'il puisse les faire vivre. Le problème, c'est que le sang de l'animal, c'est son âme. C'est le nefesh qui a d'âme ou anafesh. Car le sang, c'est l'âme. Et étant donné que c'est une âme animale, nous avons l'interdit dans la Torah de consommer l'âme animale de peur que cette âme animale s'introduise dans l'âme de l'homme et nourrisse l'homme pour le rendre animal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Épurer le sang, ça s'appelle cachériser la viande. Qu'est-ce que c'est une viande cachère? C'est pas simplement les cinq simanimes, les cinq signes que l'on fait dans la shrita. C'est pas simplement vérifier que les poumons soient halak, glad, c'est-à-dire lisses, qui démontrent bien que l'animal aurait pu vivre 12 mois après sa shrita. Mais c'est aussi l'épurer de son sang. Car consommer le sang de l'animal équivaut à boire ou à consommer l'âme de l'animal. Et comme vous le savez, un homme qui ne mange plus du tout, ne se nourrit plus, finit par mourir. Donc il y a un besoin pour l'être humain de vivre en se nourrissant. On ne peut pas vivre sans nourriture. À part mon cher Rabbeinu, 40 jours et 40 nuits, mais de façon générale, au bout d'un certain temps, l'homme meurt. Donc, nous vivons par le biais de la nourriture. Cette nourriture doit être absolument saine pour nous. D'où le fait que dans la paracha de Shemini et autres, la Torah revient non-stop nous rappeler « Faites très attention, ça c'est une abomination, c'est pas cachère, faut pas consommer. » Parce que si vous les consommez, ils ne sont pas cachérisables, comme l'huître, les fruits de mer, le porc, et d'autres animaux. Ils ne sont pas cachérisables, ce qui fait qu'en les consommant, l'animal s'introduit dans ton âme d'humain et tu deviens animal toi-même. Ce qui fait que quand tu pars de ce monde, si tu n'as pas fait tchouva et tu t'es pas débarrassé de toute cette impureté qui est en toi, eh bien ce n'est plus un humain qui apparaît dans le ciel, c'est une espèce de limace qui est devenue complètement abrutie parce qu'il faut savoir, comme le dit la Gemara, que le fait de ne pas manger kasher abrutit le cœur de l'homme. Mais taref auto. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs taref, mazé taref, impur à la consommation, c'est tirouf, qui veut dire devenir fou, même si c'est pas vraiment les mêmes lettres, mais c'est dans ce sens que la Gemara nous dit. Mais la reine, qu'est-ce que c'est manger kasher? C'est prendre, une fois qu'on a notre morceau de viande qui est halak, le mettre dans le sel, dans l'eau, demi-heure, une heure, pour que le sel devienne comme une éponge à extirper le sang de la matière et que nous ne consommions que la matière. À ce moment-là, elle devient kasher, ça veut dire valable pour le juif, uniquement à ce moment-là. Le chidouche est que, normalement, la kasherisation de la viande n'existe que pour la viande. Elle n'existe pas pour un fruit. Détrompez-vous. Elle existe pour le fruit, pour qu'il devienne cachère. Prenons le cas d'une pomme, d'une poire, d'une orange, de ce que vous voulez. Regardez ce qu'écrivent les Chachamim. בעצם קשה להבין איך יכולה הנשמה שכל עצמה אינה אלא רוחנית להיות ניזונה ממאכל חומרי. Il dit, il est très difficile de comprendre ce verset, car ce n'est pas que sur le pain que l'homme vivra, si ce n'est que le nom de Dieu qui le mettra sur la nourriture. Il dit, mais la neshama, elle est spirituelle, elle ne demande pas cette nourriture matérielle. Mais n'oublions pas que dans l'homme, il y a, dans la matière de l'homme, un niveau d'âme qui s'appelle aussi le nefesh. Et donc, on a besoin de vivre selon ce principe. מכיוון שכל עצם נברא אינו מתקיים אלא בכוח דיבורו של השם יתברך בשעת הבריאה. אלא écoutez bien ce חידוש. Comment Dieu il a créé le monde? Disent les Chachamim ici. Par 10 paroles. Le monde a été créé par la parole, la matière, les univers. Comment tout ça s'est créé? Il n'y a pas quelque chose de plus fort au monde que la force de la parole. Dieu a créé le monde par la parole. Ba'asara ma'amarot nivra olam. Par les 10 paroles, le monde a été créé. Vayomer Elokim, Vayomer Elokim. Dieu a dit, Dieu a dit. Are oto koach shel hadibur, a Eloki. Ah, tamun betoch ha-ma'achal. Quand Dieu, il a créé la nature. Quand Dieu, il a créé la nourriture. Il l'a créé par la parole. Ce qui fait que la parole divine de Dieu lui-même, elle est dans la matière. Je vous ai très étonné de ce que dit le Zohar. Le Zohar, il dit, il y a plus de spiritualité dans le monde d'en bas que dans tous les mondes supérieurs. Bah, pas possible, là c'est complètement spirituel. Il te dit oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose d'encore plus caché. Où? Dans le summum de la matière. C'est pour ça que l'Olam Haba, ça se passera sur Terre. Résurrection des morts. Et il est où l'Olam Haba? Ici. Où la matière du corps deviendra aussi supérieure que la Neshama. C'est-à-dire qu'on ne saura même plus faire la différence entre un corps humain et la Neshama de l'homme. Quand viendra l'Olam Haba. Ce sera où? Ici sur Terre. Où Amazon la Neshama? Et quand on se nourrit, comment se fait-il que notre Neshama à nous, elle se nourrit, elle se délecte comme les plats du Shabbat, toutes les soudot mitzvot que nous faisons? C'est une grande question. Il dit parce que dans chaque création de Dieu, il y a une parole divine qui est là-bas. Comment maintenant moi je vais faire en sorte que cette parole se réveille, puisqu'elle date depuis la création du monde? Quand je fais ma bracha dessus, je fais la résurrection de la parole de Dieu, de la création du monde, dans tout ce qui existe dans le monde matériel. J'achète une nouvelle voiture, chez Hayyan ou Baruchata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, chez Hayyan ou Viki Emanu Beigianu Lazemanazé. Fais très attention quand tu prononces ta bracha. Tu fais triatametim quand tu prononces ta bracha. Ça veut dire que la carotte, quand tu l'as mangée, en disant Baruchata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Boreperi Ha Adama, cette carotte, pour qu'elle puisse grandir carotte, tel que Dieu l'a créé dans sa création du monde, depuis la création du monde, il faut qu'il y ait une empreinte de Dieu dans la parole de Dieu qui fasse grandir ce fruit. Et c'est ça qui va être ta nourriture en tant que juif. Maintenant, comment moi je peux sortir cette parole et la faire vivre, la faire revenir à la vie par ma bénédiction? Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Aya Ekev Tishmeun. Waouh, 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 si vous saviez combien on va entendre dans le monde d'en haut. Quand un juif fait une bracha, Dieu lui dit à tous les gens, chut, on prononce mon nom, on réveille la création que j'ai créée par la parole. Regardez, ils sont à table. Ils vont pas manger comme les non-juifs le feraient. Donne-moi une carotte. Elle est bonne, carotte. Quoi de docteur? Non. Tu manges une carotte. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam boreperi ha adama. Et là, tu peux la consommer. C'est ce qu'il dit. Quand un juif prend un fruit dans les mains et qu'il prononce la bénédiction dessus, mit oririm akochot aruchanim apnimiim shitmunim betoch haperim mikoach hadibur haeloki beshat abriya. Toute la création du monde se réveille dans un tout petit élément qui va rentrer dans sa bouche. Ve'amavin mazon ruchani avur haneshama. Et c'est cette nourriture-là qui va nourrir notre neshama en tant que juif pendant que l'on consomme, bezrat Hashem itbarach, de la nourriture pour notre corps. Ce qui fait qu'un juif qui consomme chas v'shalom, il se met à table, il est là, oh là là, j'adore, donne-moi un morceau de pain, il prend du pain, il le mange, chas v'shalom, sans bénédiction, mais tu es fou! Non seulement tu vas payer cher parce que d'abord tu voles une nourriture qui ne t'appartient pas dans le sens où tout appartient à Dieu, nous on a pris le monde futur, donc pourquoi tu manges de la matérialité? Non. Ça t'appartient si tu fais la bracha, dit la Gemara dans Brachot. Ok, très bien. Mais pourquoi tu es fou? D'abord, hormis les mitzvot que tu payes, que tu perds, pourquoi? Combien tu fais d'anges quand tu dis une bénédiction? Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, 6 mots déjà, 6 anges. Shakol, Nia, Bidvaro. Tu viens de créer 9 anges blancs qui se mettent à chanter devant Dieu. Ve'aya, Ekev, Tishmeun, vous allez voir après la mort, quand viendra le moment du Beit Din où chaque juif montera dans le ciel, pour quelques secondes d'attention avant de manger, combien de chants. Mais c'est quoi tous ces anges? C'est quoi ces anges qui chantent? Il dit, ah, c'est ta bénédiction, ça. Et si vous entendez des chants, des anges qui chantent faux, c'est parce que vous avez avalé vos brachot. Plus votre bracha est belle et plus ces anges chantent dans le ciel. Et ça, vous l'entendez. Aïa, en fin de compte, tu verras. Quand tu vas entendre, tu vas tomber par terre. Tishmeroun. Tu vas réaliser que, hormis tout ce qu'on vient de dire, tout comme une viande qui n'a pas été cachérisée nous est interdite, si tu n'as pas fait la bracha sur ton fruit, ton légume, ton maisonote, ton gâteau, eh bien, quelque part, tu manges ta ref. Tu n'as pas cachérisé la spiritualité qui était dans cet élément. Et ça, ce sont des mitzvot qui, pour nous, paraissent tellement banales, tellement machinales, tellement journalières, tellement faciles à faire. Allez, hop, donne-moi un truc, hop, partage dans l'homme, chacun le bureau, hop, Vaya et Keftishmeun, babouche. Ne crois pas que ta bracha, c'était Stam une bracha, tu sais combien de choses ont été créées pour que tu puisses prononcer cette bracha. La reine Adam, Yisaer Meod, et il fera tout, Be'ezrat Hashem, pour cachériser chacune de ses nourritures par le processus de la halacha, s'il s'agit de viande ou d'autres choses, mais qu'il sache qu'il y a aussi une façon de cachériser qui est obligatoire et non pas facultatif, c'est que quand tu viens pour manger ce que tu as mangé, prends bien ton temps pour dire la bénédiction. À la limite, il est préférable de manger un peu plus vite et de prendre plus son temps pour la bracha que de se débarrasser d'une bracha pensant que c'est une mitzvah, bon, c'est pas dramatique, et de prendre beaucoup trop de temps pour l'avoir consommé. Le mieux, prends le temps pour les deux. Comme c'est marqué, prie bien, mange bien, étudie bien, sois quelqu'un de bien. Car un juif, il est Iprinat Tov. Qu'il est car Tov natatilachem torati altazovo. Baruch Hatzlacha, et que Bezrat Hashem, ce petit enseignement, devienne un grand soleil dans la vie de chacun de nous, et qu'on fasse une grande teshuva pour ce qu'on n'a pas fait avant, et qu'à partir de maintenant, Bemet Sheniske, Nicole Alev, de prendre notre temps pour dire les bénédictions avec amour, sourire, joie et enthousiasme, parce que Bemet, ces sons de cloche qui sortent de notre bouche, non seulement elles réveillent la création de Dieu à l'intérieur de la nourriture dans les temps de tous les siècles qui les accompagneront, mais en plus de cela, vous verrez combien ces anges seront beaux le jour de votre départ, à chanter pour vous, Vayakev Tishmeoun. Là, vous entendrez le son qui est sorti si banalement de votre bouche pour devenir une éternité de louange pour vous remercier.
Ken. On voit que par rapport à ce que vous dites, par le fait le sachar de la mitzvah,
Ken.
Et celui qui répond Amen.
Otto Davar. Amen, Gematria Malach. Lui, il gagne juste un ange. Mais cet ange-là, il est énorme. Pourquoi? Parce que celui qui dit une bracha, malgré tout, il profite du pourquoi de la bracha. Celui qui a dit Amen ne profite de rien. Donc, il a un ange, mais il est aussi large que les neuf mots de Sheakol Niyabit Baro. D'où l'importance de dire aussi bracha à voix haute pour que celui qui est en face puisse répondre Amen. Sauf pendant un shiur. Quand il y a un shiur, on ne fait pas élever sa voix, car le Talmud Torah keneged kulam, l'étude de la Torah est plus importante qu'une bracha. Elle englobe toutes les brachot. Kol tout.